BFM TV, Calvi 3D, Yves Calvi.
Bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur BFM TV. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Les jours se suivent et se ressemblent pour le Front Populaire. L'alliance de gauche paraît toujours aussi fragile, tant les divergences sont grandes en ce moment entre Jean-Luc Mélenchon et les autres partis. Une tension qui agace certains leaders, notamment Manon Aubry. Écoutez-la.
Je le dis amicalement aux responsables politiques de gauche.
De tous bords.
Arrêtez
chez
vos conneries.
Chez vous, comme ailleurs.
Franchement, à tout le monde. Arrêtez vos conneries.
Chez vous aussi. Vous dites arrêtez vos conneries.
À tout le monde.
Vous dites à Mélenchon, arrête tes conneries.
Mais je veux dire, c'est un arrêtez vos conneries général. Il y a des milliers de militantes et de militants de gauche qui se tuent à la tâche sur le terrain pour aller convaincre un à un, notamment dans une centaine, 150 circos qui vont être des circonscriptions de bascule où ça va se jouer à quelques dizaines de voix près. Là, tout de suite, Jean-Jacques Bourdin, c'est ça qui m'intéresse.
Philippe Ballard, restez avec nous, député sortant du RN, candidat à sa réélection. Nous sommes rejoints par Nicolas Maillard-Rossignol, maire socialiste de Rouen, par ailleurs premier secrétaire délégué du Parti Socialiste, David Jaize, qui est enseignant à Sciences Po, haut fonctionnaire et par ailleurs essayiste, et Amandine Atalaya, éditorialiste politique de notre chaîne. Nicolas Maillard-Rossignol, il faut arrêter les conneries entre les leaders du Front Populaire, je cite Manon Aubry.
Non mais elle dit quelque chose de très simple, c'est qu'il faut se concentrer sur l'essentiel. Moi je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Il y a le fantasme, la fiction et la vraie menace. Le fantasme, la fiction, ce serait de dire que le problème, il viendrait de division au sein de la gauche. Franchement, scoop. Au sein d'une coalition, tout le monde pense pas pareil. Bah oui, on vient de le voir aux élections européennes, on le voit dans d'autres élections. Moi, je dirige une coalition à Rouen, il y a des communistes, il y a des socialistes, il y a des écologistes, il y a même des LFistes. Je veux dire, c'est pas nouveau, ça existe depuis toujours. Mais c'est pas ça le vrai gros sujet. Le vrai gros sujet, et je trouve que franchement, beaucoup de nos compatriotes peut-être ne le perçoivent pas suffisamment, ce sont les conséquences concrètes de ce qui arriverait dans le pays concrètement si l'extrême droite remportait ce scrutin. C'est ça le seul et unique enjeu. On va être très concret. Hein. Moi, je suis maire de Rouen. Chez moi, il y a un bar extrémiste, extrême droite, qui veut faire une soirée là, vendredi. Le nom de cette soirée, c'est Ausländerraus, en allemand. C'est un slogan nazi.
Je n'ai pas fait allemand seconde langue, si vous voulez bien.
Je vous traduis, moi non plus. C'est un slogan nazi qui veut dire « les étrangers dehors ». Moi, je suis maire de cette ville. À 2h du matin, quand les personnes qui vont aller à cette soirée, et j'espère bien qu'elle sera interdite, sortent
vous avez
probablement
saisi
en n'ayant pas bu que du lait.
Vous avez saisi
j'ai saisi Gérald Darmanin, enfin, en disant, pour ne pas dire autre chose, les étrangers dehors, qu'est-ce que ça génère dans la société? Qu'est-ce que ça génère dans la société? C'est de la violence, c'est de la libération. On l'a vu à la télévision avec cette aide-soignante qui se faisait insulter « va à la niche ». Et Mme Le Pen a considéré que ça n'était pas raciste. « Va à la niche ». Ça n'est pas raciste. « Va à la niche ». Voilà où on en est. Et donc, alors, ce que dit Manon Aubry, et elle a parfaitement raison de le dire, c'est que quand on est face à un tel péril, tous les Républicains, et vous avez peut-être vu que nous venons de signer avec des Républicains qui ne sont pas forcément du Front Populaire, doivent être clairs et faire barrage. Et aujourd'hui, il suffit de regarder les chiffres, il n'y a qu'un barrage possible. La Macronie, c'est mort. C'est terminé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Édouard Philippe. Monsieur Macron a tué la Macronie. Il n'y a donc plus qu'un seul barrage, c'est le Front Populaire. Et donc, il ne faut pas barguiner.
Philippe Ballard, qu'est-ce que vous répondez à Nicolas Maillard-Rossignol?
Déjà que Marine Le Pen n'a absolument pas tenu les propos qui viennent de lui être prêtés. Moi, je veux bien, mais vous êtes dans une...
À titre personnel, est-ce que vous êtes choqué par ce qui se passe, par exemple, dans ce bar de Rouen?
Alors, si les propos, je ne connaissais pas l'histoire.
Non, mais c'est bien qu'on vous entende le dire.
Les propos qui sont tenus, rapportés, je ne connais pas, mais je vous...
C'est dommage que vous connaissiez pas quand même.
Attendez, est-ce que vous regardez dans un miroir de temps en temps?
Sans doute pas autant que vous, mais...
On va peut-être parler un peu... Non, mais
je vous ai laissé parler. Je vous demande, est-ce que vous condamnez...
Et puis vous pourrez...
Nicolas Maillard-Rossignol.
Après, c'est juste le principe du débat, si vous voulez.
Voilà. Mais il faut être un démocrate pour comprendre ça. Philippe Ballard vous répond.
Voilà. Alors, est-ce que vous nous parlez de M. Poutou, par exemple, qui a l'investiture du Front Populaire? Là, vous avez le logo devant vous, M. Poutou, qui est quand même poursuivi pour apologie pour terrorisme. Madame Obono, qui est LFI, qui est
Front populaire également, qui a refusé de qualifier le Hamas de mouvement de terroristes. Vous avez des candidats écolos qui se promènent à Sainte-Soline et qui attaquent les forces de l'ordre avec la violence que l'on connaît. Vous avez monsieur Jeune Garde, vous savez.
Non, mais vous faites
c'est
bien
un black
dire,
bloc.
C'est un black bloc.
Tout simplement. Fiché S.
Bon, vous nous dites quoi, on a tous nos extrémistes.
Cette identité
vous nous dites quoi,
différente.
On a tous
non,
nos extrémistes.
Non, parce que nous, on les a pas. Non.
Vous n'avez pas d'extrémistes.
Je ne dis surtout pas ça. Parce que nous, s'il y a un candidat qui a pu malheureusement passer à travers les mailles du filet, il est exclu, il n'a plus notre investiture et on ne veut plus en entendre parler. Mais chez vous, il y a une cargaison entière. Hein. Vous, c'est un smirmort que vous trimballez avec vous.
Nicolas Maillet-Rossignol vous répond et on donne la parole à nos autres invités.
Je vous réponds. Non, mais c'est
en quelques mots, s'il vous plaît.
Et d'une certaine façon, je vous remercie de poser cette question parce qu'elle est très importante. D'abord, on va écarter, et M. Calvi vient de le dire aimablement, on va écarter les faux débats. Des personnes qui ont été condamnées, on en trouve beaucoup dans le camp de l'extrême droite, et vous le savez, et c'est pas moi qui le dis, c'est la justice.
Et chez vous ?
Et non, il n'y en a pas. Qui ont été condamnés, il n'y en a pas. D'accord. Il n'y en a pas. Je ne dis pas qu'il y a pu y avoir des propos qui étaient parfaitement répréhensibles. Si vous avez suivi ce que j'ai dit là-dessus, vous savez très bien ce que j'en pense. Je dis juste que sur... Soyons précis. Je suis parfaitement précis.
Non.
Je ne crois pas que l'extrême droite puisse donner des leçons en matière de condamnation en ce qui concerne la haine raciale et ce genre de sujet. Mais, et c'est là où c'est intéressant, moi je vous parle de politique. Quelles sont les politiques concrètes qui seraient menées ? Moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que si votre parti, demain, accède aux responsabilités, nous aurons un ministre de l'Intérieur raciste. De l'écologie, laissez-moi terminer. Vous êtes démocrate, laissez-moi terminer. Nous aurons un ministre de l'écologie.
Quand on sombre pas dans le délire, okay,
nous aurons un ministre de l'écologie qui sera climato-sceptique.
D'accord.
Nous aurons un ministre pour les droits des femmes, pardon. Nous n'aurons plus de ministre pour les droits des femmes. Nous aurons un ministre contre les droits des femmes. Nous aurons un ministre des Affaires étrangères qui nous expliquera. Mais je l'assume parfaitement. Qui nous expliquera que finalement l'Ukraine, c'est pas forcément notre combat et que notre ami, c'est plutôt Monsieur Vladimir.
D'accord. Voilà. Alors,
ça, je pense que c'est très dangereux.
C'est notre terme. Je suis obligé de laisser Philippe Ballard.
Nicolas Maillard.
Mais c'est intéressant.
Après ce que vous venez de balancer,
vous vous rendez compte du niveau du débat, quoi. Seul programme,
mais parce qu'on en est là.
Seul programme, s'il vous plaît, combattre le Rassemblement national. Et balancer des fake news, enfin ça va au-delà des fake news. Dire vous aurez un ministre de l'Intérieur raciste, mais vous vous basez sur quoi ? Vous avez un CV là ? Vous avez un nom ?
Vous avez voté pour l'entrée de l'IVG dans la Constitution, oui ou non ?
Moi, je me suis abstenu au Congrès
de Versailles.
Merci de le dire. Quel est le rapport avec
la ministre
de l'Intérieur raciste ?
Je vous parle de politique.
Moi, j'écoute vos propos qui sont scandaleux.
Vous avez des propositions qui visent à différencier selon la couleur de peau. Selon la couleur de peau,
avoir deux points facilement.
Bien, on verra bien.
Philippe Ballard, vous dites que vous faites monter les voix du Rassemblement national. Je vous laisse à ce point de ce débat. Amandine Atalaya, ça va être rude, puisqu'en fait, la bataille entre la gauche et le RN, mais au-delà de... ce sont les deux pôles qui sont en train de s'affronter, puisque les macronistes en ce moment sont quasiment out.
Oui, d'ailleurs, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est de les renvoyer dos à dos et dire que à part lui, ce sera le chaos. Ce qui est compliqué, si tant est qu'on puisse croire que des consignes de vote touchent encore les électeurs, c'est que ça part dans tous les sens sur ce qu'on leur dit. Par exemple, à gauche, on a vu aujourd'hui deux tribunes qui sont extrêmement différentes. Il y a celle avec, par exemple, Madame Badinter, Monsieur Valls, Monsieur Cazeneuve, qui disent ni RN ni LFI. Et puis il y a cette autre tribune qui, à l'inverse, celle de Dominique Strauss-Kahn, explique qu'il faut voter LFI, y compris en se bouchant le nez. Donc,
vous venez de lancer notre séquence Les Éclaireurs.
J'ai bien compris que j'empiétais sur quelque chose.
Non, mais c'est très bien. On va retrouver tout de suite François Gapillon. Bonsoir François.
Bonsoir.
Les tribunes pour regrouper les forces démocratiques après le 4 juillet se multiplient ces derniers jours.
En effet. Et il y a, alors côté gauche, centre-gauche, deux stratégies qui apparaissent très clairement dans deux tribunes publiées aujourd'hui sur le site du quotidien Le Monde. D'un côté, le ni-ni, d'une certaine manière, prôné notamment par les anciens premiers ministres Manuel Valls et Bernard Cazeneuve, ni RN, ni LFI, ainsi renvoyés dos à dos dans cette campagne des législatives qui, selon les auteurs de cette tribune, engageront, je cite, les valeurs fondamentales sur lesquelles repose notre démocratie, des valeurs qui, je cite encore, ne sauraient souffrir aucun compromis, fût-ce au nom d'un barrage contre l'extrême droite. Comprenez la lutte contre le RN ne suffit pas, suivez mon regard vers cette nouvelle citation, camouflés au sein d'un prétendu front populaire, les candidats de la France insoumise en trahissent jusqu'à son idéal historique. LFI aussi dangereux que le RN, donc c'est ce que l'on comprend. Ce n'est pas ce qui ressort de la seconde tribune qui, elle, est signée par plus de 220 personnalités politiques et de la société civile, dont Raphaël Glucksmann, la ministre Agnès Pannier-Runacher ou encore Marine Tondelier, patronne des écologistes. Eux estiment que malgré les profondes divergences qui existent entre les forces démocratiques du nouveau front populaire à la droite républicaine, il est indispensable de surmonter les rancœurs et de s'entendre pour empêcher le Rassemblement national d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale le 7 juillet, car, je cite encore l'extrême droite, ils disent qu'on sait quand elle arrive au pouvoir, mais on ne sait jamais quand et comment elle le quittera. Là, on n'est plus dans le nini, vous l'aurez compris, c'est plutôt tous contre le RN, sorte de nouveau front républicain qui implique, d'après les auteurs de cette tribune, d'éviter les triangulaires au second tour en retirant le candidat arrivé troisième et en soutenant activement celui ou celle qui reste face au RN. Ils appellent à afficher ce choix clairement, dès maintenant, sans attendre le 30 juin, c'est bientôt, hein, c'est dimanche, date du premier tour. Élément notable, quand même, aucun membre de la France insoumise, a priori, ne figure parmi les signataires de cette seconde tribune.
Merci beaucoup, François. Vous avez signé une de ces tribunes ?
Je l'ai signée.
Pourquoi ?
Parce que quand on a le sens des responsabilités, il faut savoir hiérarchiser les périls.
Oui.
Moi, j'aime pas du tout la France insoumise. Je considère que Jean-Luc Mélenchon est un leader démagogue qui exploite les mauvaises passions, mais... D'abord, la France insoumise est minoritaire dans cet accord électoral. Hein, si vous additionnez tous les autres candidats socialistes, écologistes, communistes, vous avez plus de monde que les candidats insoumis. Et le vrai sujet dont on discute ce soir, c'est la possible arrivée du Rassemblement national au pouvoir dans quelques jours. C'est-à-dire un changement, un bouleversement majeur qui va avoir un impact terrible sur la vie de millions de nos concitoyens. On l'a vu avec les doubles nationalités dont a parlé Jordan Bardella. On imagine bien que les droits des femmes vont se dégrader. On imagine les conséquences de cette arrivée au pouvoir. Et on finasserait. Moi, je pense que l'histoire jugera sévèrement celles et ceux qui ont finassé et qui ont été incapables de hiérarchiser les dangers dans ce moment extrêmement dangereux dans lequel se trouve notre pays.
Les alliances nous donnent rendez-vous pour savoir quelle est leur force, leur puissance et leur capacité ou non d'ailleurs à diriger le pays dès le premier tour, dès dimanche.
Beaucoup vont se décider après, mais ça va partir en ordre dispersé. Et on peut imaginer que la plupart des partis ne vont pas forcément définir une ligne absolue, qu'il va y avoir des voix divergentes au sein de chaque parti. Et puis même, en fait, suivant les situations locales, ça va se décider comme ça. Par exemple, un député issu de la majorité ne va pas forcément choisir de se désister de la même façon si c'est un socialiste en face de lui ou si c'est un LFI type Daniel Obono ou d'autres qui ont pu avoir des propos qui ont choqué beaucoup. Donc c'est une grande confusion pour les électeurs à regarder aujourd'hui les tribunes qui s'empilent et les consignes qui s'empilent, parfois un peu contradictoires.
Vous craignez ces alliances qui sont en fait globalement en train de condamner votre engagement et de dire le pire qui puisse arriver pour la France, c'est l'arrivée du Front National au pouvoir, enfin tout simplement.
Bah, je regardais là, par monsieur. Alors je trouve que Kahn, qui a été au Fonds monétaire international, on sait très bien que si le Front populaire arrive par malheur au pouvoir, il a un programme économique, enfin d'ailleurs qui est chiffré selon qu'on est LFI, selon qu'on est socialiste, Madame Rabault, c'est deux chiffrages complètement différents. Puis tout le monde s'accorde quand même pour nous dire que ce serait bienvenu au Venezuela avec le pétrole en moins. Alors il y a Madame Binet aussi de la CGT, je ne sais pas si elle était dans la signature, mais enfin on va rappeler quand même à Madame Binet que 60% des ouvriers et 40% des employés votent pour le Rassemblement national. Et puis il y a ces tribunes. Moi, je renvoie aussi à la tribune du Point. Il y a quelques jours, où vous aviez un appel de messieurs Kouchner, de messieurs Ferry, Onfray, qui ne sont pas membres du Rassemblement national et qui appelaient à faire barrage à la NUPES version 2 avec une composante qui s'appelle LFI. Voilà. Donc, on n'est pas du tout inquiet. Moi, je suis sur le terrain. Je peux vous dire que ça ne porte pas. Moi, les gens, ils me parlent pouvoir d'achat, ils me parlent sécurité, immigration, et puis dette et déficit. Voilà. Parle de ça, et pas du reste.
Ce que nous dit Philippe Ballard, et qui est corroboré par un certain nombre d'analyses en ce moment, en tout cas, même de sondages, David Jay, c'est que les Français ont envie d'essayer.
Bien sûr que les Français ont envie d'essayer. Moi, je dis souvent que le Rassemblement national, c'est le soleil noir de la politique française. C'est-à-dire que ça fait 40 ans que ça monte. Et évidemment, comme ils n'ont pas exercé le pouvoir, qu'il y a eu la gauche, qu'il y a eu la droite, qu'il y a eu le centre, il y a un sentiment... évidemment, de lassitude. Mais moi, ce que je dis aux Français qui nous écoutent, c'est attention. si vous essayez ça, d'abord, la marche arrière sera beaucoup plus difficile qu'on ne le croit, parce que quand l'extrême droite arrive au pouvoir, on l'a vu en Europe, elle commence à s'attaquer aux libertés, elle commence à engager des réformes de la magistrature, elle commence à rogner sur l'état de droit, sur les libertés. Donc on touche à notre contrat social dans ce qu'il a de plus essentiel. Et par ailleurs, franchement, je pense que vous n'êtes pas très bien placé pour donner des leçons de programme politique au nouveau Front populaire quand on voit le côté famélique, désordonné, erratique, aléatoire du programme qui est présenté par le Rassemblement national et le bug monumental que Jordan Bardella a administré à ses spectateurs quand on lui demandait ce qu'il allait faire avec les 7 milliards d'euros de la TVA.
Oui, mais vous savez, là, pour le coup, il y a même un journaliste de Libération qui a dit la vérité. La Libération, vous comprenez que ce n'est pas notre organe de propagande.
En règle générale,
et qui
non.
Il a dit que, en règle générale, c'est le moins qu'on puisse dire, et que tout simplement, moi, j'étais présent dans la salle. Je ne sais pas si vous y étiez, non ?
Non.
Bon, ben voilà, alors maintenant, je vais vous l'expliquer. On posait les questions en rafale à Jordan Bardella, 2 voire 3 questions. Il notait tout simplement et il les reprenait une à une. Et à un moment donné, c'est dans quel ordre je réponds. Voilà, c'est ça. Et vous voyez, même ce journaliste de Libération a eu l'honnêteté intellectuelle de dire « c'est pas du tout ce bug qui s'est passé ». Il répondait aux questions les unes après les autres. Il en prenait plusieurs à la volée.
On va parler alliance en écoutant le président, mais vous vouliez intervenir.
Oui, parce que je voulais répondre sur le programme. Tout à l'heure, j'essayais d'expliquer que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, ça veut dire des conséquences politiques concrètes. C'est des remises en cause de droits, de services publics, de droits des femmes, de services publics, de l'état de droit, c'est moins d'action sur l'écologie, etc. Mais il faut regarder le programme économique. Et moi, je vous prends au mot, c'est très intéressant ce que vous venez de dire. Moi, je suis allé lire le programme du Rassemblement national. Il faut toujours lire tous les programmes. Il n'y a pas un chiffre. Il n'y a pas
Mais quel programme
Le programme du Rassemblement national dans le cadre
sur
de ces élections législatives.
Vous avez dû le législatif.
Vous avez dû le lire en détail. Je vous invite à vérifier. Il n'y a pas un chiffre. Six, vous avez dit, on n'a jamais essayé. Alors, si vous voulez, la France, c'est comme un avion. Dans une situation très difficile. Déficit explosé, date dette explosée. Le pilote, c'est le président de la République. Le pilote vient de nous dire, moi, je ne suis plus pilote. Harakiri, dissolution. Dans ce moment-là, vous allez confier le manche de l'avion à un gars de 28 ans qui n'a jamais eu son brevet? C'est ça qu'on veut faire? Est-ce que vous, monsieur,
non, mais c'est le
si
niveau,
vous aviez 2 000 milliards d'économies,
c'est
vous n'avez pas 2 000 milliards.
Mais affligeant,
imaginons
quoi,
que vous ayez 2 000 milliards d'économies, c'est-à-dire quelque chose qui ressemble à l'ordre de grandeur de la richesse de la France. Est-ce que vous confieriez cela à quelqu'un et à un parti qui n'ont jamais eu aucune expérience de la gestion public.
Ah mais ça, vous l'avez eu, vous nous avez bien planté.
Franchement, c'est intéressant parce que Gérald Darmanin a tenu quasiment les mêmes propos que vous il y a quelques jours.
Je pense
vous
que
n'avez
c'est un vrai argument.
Aucune leçon à
et
donner.
Je pense
mais
qu'il
aucune,
y a beaucoup d'élus, j'en fais partie, et il n'y a pas que chez moi d'ailleurs, y compris dans la droite républicaine et heureusement, qui ont fait la démonstration qu'ils savent gérer l'argent public. Je rappelle que la seule fois où le déficit de la France a été réduit et où la dette a diminué en France, c'est sous Lionel Jospin et François Hollande. C'est facilement
vérifiable. Il y avait 5% de croissance.
C'est facilement vérifiable. Donc,
avec une forte croissance, c'est vrai. Avec une forte croissance.
Mais
ils ont pris les mesures.
A été provoquée. Bon. Moi, je dis juste que l'argument, et c'est important de démonter le programme économique. Le programme économique du Rassemblement national est une escroquerie. C'est une escroquerie. C'est du pur mensonge. Vous n'achèteriez jamais cela pour vos propres deniers. Or là, on parle d'argent public. Moi, je suis maire. Je dois gérer l'argent public tous les jours. Jamais je ne confierai de l'argent public comme cela à des gens qui n'ont aucune compétence en la matière.
On va écouter le président de la République dans des propos assez étonnants.
Moi, un de mes regrets, c'est qu'en 2022, je n'ai pas réussi vraiment à faire des coalitions de gouvernement. Parce que c'était juste après une présidentielle. C'était bloc contre bloc. Mais ma conviction, c'est que le jour d'après, j'espère que la majorité aura une majorité. Mais elle devra travailler avec d'autres responsables politiques qui seront élus, qui viendront du centre, de la droite, de la gauche, et qui peuvent se retrouver dans une fédération d'action, si je puis dire, une vraie coalition pour la République.
Alors, je pense qu'on n'est jamais très convaincant quand on dit des années après, j'aurais dû le faire à l'époque, etc. Mais enfin bon, vous étiez aux côtés du président en 2022. Qu'est-ce qui l'a empêché de faire cette coalition majoritaire?
Oui, moi j'ai cru en 2022, quand on s'est retrouvé avec cette assemblée fragmentée, pas de majorité, qu'il serait possible de faire des vraies coalitions d'idées pour le pays.
Oui.
Pour une raison très simple, c'est que le RN apporte des fausses solutions à des vrais problèmes sur la question des services publics, de la désertification médicale, du retrait de l'État, de cette crise morale que traverse la France.
Et ma question, c'est qu'est-ce qui vous a empêché de faire cette coalition majoritaire ?
Je pense que les torts sont partagés. C'est-à-dire qu'il y a au sommet de l'État une très faible capacité à construire des compromis.
On ne sait pas faire.
Je pense qu'on
ne sait
pas
ou on n'a pas envie.
Et c'est pas limité à Emmanuel
Macron.
Ou c'est
une flemme intellectuelle.
Je pense que c'est un travers grave de la Ve République et de ses institutions complètement bonapartistes. J'ai écrit récemment sur la nécessité d'aller vers la proportionnelle aux élections législatives parce que, vous savez, le scrutin uninominal majoritaire à deux tours, c'est très bien quand vous avez deux grands partis, la gauche, la droite, les deux tours jumelles.
Ça n'est plus du tout le cas maintenant.
Ça n'est plus du tout le cas.
D'où une forme de marasme.
Donc il faut un petit peu créer une culture du compromis. Et pour ce faire, permettre aux électeurs de choisir pour leur sensibilité politique dès le premier tour des élections législatives, ça serait un véritable progrès. Marine Le Pen l'avait proposé en 2017 et à nouveau en 2022, même si en 2022, comme sur beaucoup de sujets, elle a un peu changé la formule. C'est dans le programme du nouveau Front populaire. Et Macron l'avait porté aussi en 2017. Moi, je dis chiche, on va élire une assemblée dans un mois, que les députés qui seront élus se mettent d'accord sur une réforme du mode de scrutin, parce que c'est un sujet majeur. Derrière, ça permet de faire des gouvernements de coalition et des gouvernements avec un vrai contrat où on se met d'accord sur 10, 20, 30 sujets qui sont prioritaires pour le quotidien des Français. Parce qu'on est là en train d'avoir nos débats théoriques, mais la vérité, c'est que les gens, ils attendent des réponses extrêmement concrètes sur l'école, sur la santé, sur les services publics, sur le train, sur la sécurité. Et aujourd'hui, on a une action publique qui est complètement bloquée, enquistée. Et je pense que cette réforme du mode de scrutin changerait les mœurs politiques dans notre pays dans le sens de plus de compromis.
Ce sera la dernière question de l'émission, Amandine, et je vous voyais dubitative il y a quelques instants. Cette grande coalition, n'évoquez pas vos propos, cette grande coalition du président de la République, est-ce qu'il peut encore la faire ?
Ça paraît... les conditions ne semblent absolument pas réunies aujourd'hui. Non, c'est-à-dire qu'on est soit sur un scénario où le RN a la majorité absolue ou presque... De 175, 280 députés, on comprend qu'ils y vont en essayant de trouver les députés de droite pour faire passer leur texte nécessaire. Soit on est sur des blocs avec des majorités relatives et cette option dont parle beaucoup d'un gouvernement de techniciens qui ne satisfait, cela dit, à peu près personne. Mais il n'y a personne pour croire aujourd'hui à une coalition avec des gens de bonne volonté de droite et de gauche qui jusque-là ne se sont jamais entendus, qui par un miracle soudain arrivera à travailler ensemble. Donc tout ça paraît mal engagé et ce scénario des majorités relatives mène à une France ingouvernable. Et c'est dans cette optique que Marine Le Pen, par exemple, a dit qu'elle ne voyait pas d'autre issue que la démission d'Emmanuel Macron.